sont beaucoup plus médicaux. Et c'est toujours, ça va vers l'hyperspécialisation là-dedans comme ailleurs.
Donc, je vous posais la question suivante, comment ça a évolué depuis 69, une spécialisation de plus en plus forte.
Oui, tout à fait,
Et quand vous aviez été interrogé, vous aviez dit que vous aviez choisi Orléans parce qu'il y avait moins d'ophtalmo qu'à Amiens, en partie, et que vous aimiez beaucoup la région actuellement.
Oui, et puis c'était, si vous voulez, un peu entre Amiens, qui est ma ville d'origine, et les Deux-Sèvres, qui est le pays d'origine de mon épouse, et où mon beau-père exerçait la médecine générale.
Ouais. Et actuellement, au point de vue situation de médecin spécialiste ophtalmo-Orléans,
Il n'y en a pas assez.
Il n'y en a pas assez, oui.
Je crois qu'ils sont quand même une petite vingtaine. Enfin, la demande est de plus en plus importante. La demande est de plus importante, et même, il y a des campagnes qui poussent les gens à consulter. Je ne dis pas que ces campagnes sont mauvaises ou qu'on a tort de les faire, mais enfin, il n'y a pas en face le nombre de médecins prêts à y répondre.
Et est-ce que vous voulez bien me décrire une journée de travail, quand vous travaillez
Quand je travaillais.
Quand vous travaillez.
Écoutez, je me suis toujours levé assez tard. Au cours des études de médecine, généralement, il y a des conférences d'externat ou d'internat qui se passent le soir. Ça se termine à 11h, 11h, 11h30, et donc on se couche tard, et on se lève relativement tard, et on ne va pas à l'hôpital avant 9h, en général, 9h, 9h30. Et bon, j'ai gardé un petit peu cette habitude toute ma vie. Je commençais à consulter à 9h30. Et puis, j'arrêtais souvent vers 1h, puis je reprenais vers 2h. Et puis le soir, ça pouvait quelquefois durer longtemps. Je dirais jusqu'à 8h, 8h30. Et puis, j'opérais une ou deux fois par semaine.
Oui, vous opériez à...
J'opérais à la clinique des longues années. Oui. J'opérais déjà, au départ à la clinique Chanzy, et puis il y a eu tout un regroupement de cliniques avec Bon Secours, et parce que les sœurs à qui appartenait cette clinique voulaient... Non, d'abord, est parti à l'Archette, à Olivet, et puis, c'est à ce moment-là que certains, ne voulant pas aller là-bas, ou ceci ou cela, on s'est transféré aux longues années en s'associant avec un certain nombre de médecins de l'Archette.
Et après, vous aviez un cabinet d'ophtalmo à plusieurs.
À plusieurs, c'est ça. On a été jusqu'à quatre.
Jusqu'à quatre.
Et puis, moi, quand je suis parti, nous étions quatre.
Et ça facilitait votre travail
C'est-à-dire que, je vais vous dire que j'ai éprouvé le besoin de m'associer, non pas tellement pour m'associer ou pour trouver des moyens techniques nouveaux, mais parce que ça faisait 18 ans que j'exerçais seul, avec ma secrétaire qui était dans l'entrée, et finalement, cette espèce de ronron finit par m'ennuyer. Je me suis dit que finalement, il y a peut-être mieux à faire en s'associant, en pouvant échanger des données scientifiques ou des attitudes à avoir vis-à-vis tel ou tel malade. Et ça m'a paru intéressant, puis c'était peut-être un peu la mode. Donc je me suis associé avec un, puis deux. C'était prévu que nous serions trois au départ, mais pour des raisons pratiques, nous avons été deux pendant un certain temps, et puis trois, puis quatre.
Et le travail a énormément évolué au point de vue technique depuis que...
Oh oui, depuis que j'ai commencé, il y a eu énormément de choses qui ont changé. En particulier, il y a toute une branche de l'examen qui maintenant se fait grâce à des appareils qui sont informatisés, des mesures qui sont informatiques, qui permettent, dans une première approche, avec un système d'échographie, de prévoir les verres qu'il faut mettre au sujet. Il vaut quand même mieux le vérifier quand même avec des verres classique pour être sûr qu'il n'y a pas de, que le sujet est bien avec ça. Mais enfin, ça simplifie beaucoup les examens. Et puis, par exemple, il est arrivé l'angiographe. Quand je me suis installé, il n'y avait pas d'angiographe qui permettait de photographier la rétine en injectant de la fluorescéine par les veines. Et puis, il y a eu la révolution au point de vue chirurgical de l'implant, qui était une révolution qui fait que maintenant on opère les cataractes bien avant que les gens ne voient plus clair, parce que on est sûr que les gens vont s'adapter, alors qu'avant ils étaient tributaires d'énormes lunettes qui troublaient le champ visuel.
Et les handicaps, les problèmes graves de vision sont quand même mieux pris en compte, mieux... On ne va pas obligatoirement vers la cécité comme on allait pour certaines maladies. Mais...
Le pronostic du glaucome semble ne pas s'être arrangé
d'une façon.
Si, il y a des moyens de traitement qui sont meilleurs, mais les glaucomes sévères, il y a quand même beaucoup d'échecs et beaucoup d'évolutions qui sont très défavorables.
La rétinite, pareil.
Ça, c'est la grande plaie. Les dégénérescences maculaires qui empêchent les gens de lire sans les empêcher de se conduire sont devenues extrêmement fréquentes, non point que l'évolution, que ce soit répandu, mais parce que les gens vivent beaucoup plus longtemps et comme c'est une affection sénile, bien, beaucoup plus de gens en sont atteints.
Moi j'ai des élèves qui étaient atteints de rétinite. Avec la surdité associée.
C'est sans doute des rétinites pigmentaires. Mm-hmm. Sans doute des rétinites pigmentaires qui sont fréquemment associées à des surdités.
Oui. Et là, je crois qu'on n'a encore rien trouvé.
Voilà, les rétinites pigmentaires, il n'y a pas de traitement, je sache.
Et au niveau des dégénérescences masculines, il me semble qu'on a trouvé des produits.
J'allais dire que c'est comme Saint-Antoine pour retrouver les objets perdus.
Et au point de vue atteinte de la rétine, c'est quand même... plus au point de vue laser, au point de vue tout ce qui est opération laser.
Le laser, c'est une méthode pour la rétine qui est et thérapeutique un peu et préventive beaucoup. Et le laser sur la rétine, ça fait qu'une seule chose, c'est brûler de la rétine. Ça ne fait que détruire de la rétine. Alors, ça permet de faire des cicatrices qui sont adhérentes. Ce qui fait que, à partir du point qui est en arrière du barrage, un décollement de rétine ne peut pas se propager vers l'avant. Et en ce qui concerne les lésions édémateuses de la partie centrale de la rétine, de la macula, ça empêche l'édème de se propager. Mais quand même, ça bloque de la rétine.
Et qu'est-ce que vous auriez aimé voir changer dans votre métier, à part plus d'ophtalmo, plus de...
Ce que j'aurais voir aimé changer... Ma grande idée, ça a toujours été qu'il fallait pousser les gens à un peu d'éducation sanitaire. C'est-à-dire que les sujets soient plus conscients de ce qui peut leur arriver, ne pas consulter pour n'importe quoi. Et je crois que l'évolution qui est en route actuellement, qui est que les ophtalmologistes et des aides qui sont les orthoptistes, qui puissent prescrire des lunettes, qui puissent faire des interrogatoires, etc., peut amener une solution à cette surcharge de travail. Parce que vraiment... Il y a eu des moments où j'ai été vraiment surchargé de travail. À 9h, 9h30, et puis il faut dire que quand on prend de l'âge, après 6h, 6h30, je commençais à tirer la langue. Hein.
Mais actuellement, les orthoptistes ne prescrivent pas, ils n'ont pas compétence
pour prescrire. Elles ne prescrivent pas.
Elles envoient en consultation.
Il s'agit de... C'est l'évolution, c'est des réfractionnistes, si vous voulez, qui, dans le cabinet d'un médecin, font une partie de l'examen et, en particulier, améliorent l'acuité visuelle par des verres jusqu'au maximum, sans chercher à savoir quelle est l'origine, et trouvent les meilleurs verres. Alors maintenant, au médecin de trouver ensuite la cause de ce déficit éventuel, ou de constater, si le sujet a 10 dixièmes avec une correction donnée, qu'à part le fait qu'il ait besoin de lunettes, il n'y a rien d'autre, et en particulier d'anomalie rétinienne ou d'anomalie des milieux dits transparents.
C'est au niveau orthoptiste, il n'y en a pas plus. Il y en a d'autres.
Ah, si, on en forme quand même davantage.
Ouais,
je pense que c'est la solution. Ouais.
Et alors, que pensez-vous actuellement du travail des femmes?
Je pense que moi, je ne vois absolument aucune raison que les femmes n'aient point une qualification aussi importante que les hommes. Elles ne sont pas génétiquement plus bêtes ou plus intelligentes que les hommes, mais je pense qu'il y a quand même des pesanteurs biologiques qui pèsent sur les femmes. Et on est en train, par exemple, de crier partout que le salaire des hommes, le salaire des femmes doit être égal à celui des femmes. Bon, mais j'ai été à moitié chef d'entreprise parce que, étant ophtalmologiste, on est à la fois en bas de la gamme, c'est-à-dire que c'est soi-même qui travaille, et au milieu de la gamme, c'est la secrétaire, et en haut, on se retrouve avec le patron quand même. Bon, il n'empêche que pour un chef d'entreprise, il est certain qu'à qualification égale, il prendra plutôt un homme qu'une femme, en particulier si elle est jeune, parce qu'il risque de ne plus voir sa secrétaire ou son orthoptiste si son gosse a la rougeole, si elle est enceinte, et que sais-je, si vous voulez. C'est beaucoup plus la femme qui va rester au foyer pour éponger le coup dur que l'homme. Alors, dans une société qui est une société d'économie libérale, je vois mal comment on peut empêcher le professionnel de ne pas choisir un homme plutôt qu'une femme. C'est absolument évident. Alors, il faut modérer ça, parce que finalement, les femmes qui ont élevé leurs enfants n'ont pas de problème de cet ordre-là. Et puis en plus, il y a quand même certains métiers où les femmes sont quand même plus performantes, je crois, que les hommes, et en particulier au niveau du secrétariat. J'ai jamais eu de secrétaire homme, mais enfin, les secrétaires femmes sont, de l'avis de beaucoup de monde, plus attentives, tiennent mieux un agenda, sont plus attentives aux problèmes de leur patron.
Donc, maintenant, je n'ai... du positif et du négatif.
Tout à fait. Mais en tout cas, sur la question du salaire, moi je crois que, qu'est-ce que vous voulez, ou bien alors, on passe dans une société qui devient complètement dirigiste, et à ce moment-là, on sait comment se termine le dirigiste. Oui, il se termine généralement en barbarie.
Voilà, donc, alors après, on passe au loisir. Vous voyez, il n'y avait pas grand-chose pour le travail, puisque maintenant, vous êtes retraité depuis combien de temps?
Je suis retraité depuis le 1er avril 1998.
7 ans.
Oui, ça fait 7 ans. Oui.
Alors, que faites-vous de vos temps libres, si vous en avez? De vos soirées, de vos week-ends? Comment organisez-vous votre temps? Est-ce que vous pouvez me décrire une journée?
Mais je commence toujours par me lever toujours assez tard. C'est de l'ordre de 8h, 8h15, quelquefois même plus tard. Enfin, très rarement après 9h. Et bon, bah, le matin, on va lentement à nos occupations, et on peut faire des courses, on peut faire du jardinage. Souvent, j'ai du travail à faire, parce que je m'occupe de la couronnerie. Je fais partie du conseil d'administration de la couronnerie, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a quand même un certain nombre de trucs. Je me suis occupé du projet associatif. Vous voyez, c'est une espèce de papier qu'il faut faire avec l'historique, les moyens, tout ceci, etc. Ceci en recueillant l'avis de tout le monde, en essayant de mettre tout le monde d'accord sur ce qu'il y a dedans. Donc ce qui représente pas mal de travail. Et puis alors depuis 3 mois, un peu plus de 3 mois, même je suis secrétaire général des Amis des Musées d'Orléans. Alors, ça fait aussi pas mal de boulot. Il faut que je sois aux conférences le mercredi. Il faut qu'il y ait des réunions quand même, un minimum de réunions, de convocations, de trucs comme ça à faire. Et puis ici, bon, il y a le jardin qui prend quand même un petit peu de temps. Et puis je lis pas mal, j'écoute de la musique. Le soir, on regarde la télévision un peu, pas beaucoup. On ne regarde jamais la télévision quand elle est bête, à vrai dire. Les émissions People ne plaisent ni à ma femme ni à moi. On va beaucoup au cinéma. On va beaucoup au cinéma.
À Orléans, Beaugency.
À Beaugency, quand on peut, quand il passe des choses intéressantes, on va à Beaugency parce que c'est plus près. Il arrive même qu'on aille à Blois, qui finalement est un peu plus loin qu'Orléans. Enfin, à peine, lorsqu'il y a des films qui passent pas à Orléans, ou qui sont décalés dans le temps, qui passent plus tard ou plus tôt. Bon. Et puis, finalement, on est quand même abonné à au moins deux cycles de concerts, et puis deux cycles de théâtre, ce qui fait que...
Sur Orléans, toujours.
Ouais, voilà.
Vous n'allez pas à Logrin, par exemple, si vous me parliez de Bois-là.
Non. Même les journées là, de l'historique là, de Blois, on n'y a pas été. On dit toujours qu'on va y aller, mais enfin, on n'y a pas été.
Et sur le niveau local, vous ne participez à aucune association, à aucune...
Localement, non, je dois dire. Localement, non. Je ne sais pas trop. C'est un peu, si vous voulez, il y a un petit cercle municipal orienté politiquement à gauche et qui n'a pas l'air de vouloir se faire trop envahir. Je sais qu'il y a la sœur d'un de mes copains qui a voulu leur rendre service et qui n'a pas été reçue agréablement. Bon. Enfin, j'entretiens les meilleures relations avec le maire et les adjoints, mais je ne suis pas mouillé dans une association, je pense que j'en ai bien assez. Et qu'en plus de ça, je fais partie du Lyons, d'un des Lyons d'Orléans, de sorte que ça me prend déjà quelques soirées par mois. Bon. Enfin, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Quoi. Puis je lis.
Vous le placez obligatoirement en voiture d'ici.
Ah oui, ici, il n'y a pas de...
Transport en commun
non.
Pour vous
non. Bah, si, j'ai ma vieille mère qui habite à Paris, elle a 96 ans. Et elle ne peut plus lire, elle peut se conduire, mais elle ne peut plus lire. Alors je vais la voir à peu près tous les 10 jours, et le plus souvent je prends le train.
À Beaugency.
À Beaugency, 1h40 on est à Paris. C'est infiniment plus confortable. Et surtout le fait qui me dissuade d'aller à Paris, c'est qu'il y a le plus souvent des embouteillages, et qu'on ne peut pas garer sa voiture. Alors, je vais autant prendre mes pieds.
Voilà, donc l'avion, quand vous faites des voyages, je suppose
Oui, alors en plus de ça, on fait des voyages, on a fait quand même... On a été à Tahiti l'année dernière à faire du voilier. La sœur de ma femme habite Madrid. Madrid et Andorre, enfin, 6 mois l'un, 6 mois l'autre. Bon, on va aller voir au moins une fois par an, si c'est pas deux. Et puis, il y a un beau frère qui est dans la Drôme, là, dans les Alpes, on va le voir, oui, aussi une fois par an, souvent.
Voilà, et au point de vue voiture, vous avez une, deux voitures
On a deux voitures, ma femme a sa voiture.
Oui, c'est indispensable quand on habite...
On se pose la question. On se pose la question, savoir si on regarde une deuxième voiture. Enfin, ça, c'est à voir. Je crois qu'on va peut-être solder. On avait promis de donner la voiture de ma femme à l'aîné de nos petits-fils. Alors on va voir ce que ça donne de vivre avec une seule voiture.
Il y en a un qui sera tributaire de l'autre aussi.
Oui, mais non, mais c'est à voir. Moi, je crois personnellement qu'il faut deux voitures.
Une question, que ferez-vous pendant les prochaines vacances si tant est que les retraités aient des vacances?
Nous recevons beaucoup nos petits-enfants, c'est sûr. Et finalement, moi, je me rends compte qu'ici, il y a une saison qui est agréable. C'est celle qui commence maintenant et qui finit, disons, fin novembre. Et encore. Bon. Décembre, janvier, février et mars, c'est quand même un peu dur à vivre à la campagne. C'est un peu triste. Et moi, j'insiste, ma femme voulait qu'on aille faire un tour à Gand, voir les fleurs, etc. Bon. Moi, je trouve qu'ici, c'est agréable en été. et que ça n'est pas agréable en hiver. Donc je pousse à aller en vacances l'hiver, quitte à aller dans l'hémisphère sud ou autre, ce qui maintenant n'est pas d'un prix absolument exorbitant.
Oui, et puis comme vous faites partie des amis du musée, je suppose que vous vous intéressez beaucoup à la peinture.
Tout à fait.
Oui. Donc, aller voir des musées
à l'étranger. Non, on veut aller. Je suis jamais. Je suis allé trois fois aux États-Unis lors de pour des réunions annuelles de l'Académie américaine d'ophtalmologie. On a été trois fois, une fois à San Francisco, une fois à Los Angeles, une fois à Chicago. Je n'ai jamais été sur la côte est des États-Unis. Et bon, j'ambitionne d'y aller au mois d'octobre, septembre-octobre, pour le voir. Quoi. Sans doute une dernière fois dans l'existence. Une première, une dernière fois.
Voilà. Et est-ce que vous pratiquez des activités physiques ou une activité physique?
C'est certainement mon problème un petit peu actuellement. C'est que autrefois, je faisais de la gymnastique trois fois par semaine. Et puis depuis ma retraite, j'ai rien fait, et j'ai pris des kilos, et à part la marche, et encore, je marche pas souvent, je fais pas grand-chose. Alors, le jardin, un peu, c'est quand même une activité physique, certainement j'en fais pas assez.
Vous avez parlé de voile tout à l'heure.
Oui.
Mais c'est vraiment
pour... Quand même, c'est du voilier, hein. Bon, ça consiste à manier des winches pour faire, vous savez, mollement, hein. Puis c'est un effort d'un moment, c'est pas un effort physique propre à maintenir en forme.
Ça. Alors, vous m'avez un peu répondu si vous écoutiez la radio, la télévision, quelle était votre
chaîne. J'écoute beaucoup la radio.
Alors, quel
poste que j'écoute?
Quel poste?
J'écoute essentiellement France Inter, France Culture, France Musique et Radio Classique.
La Radio Classique aussi.
Et les autres, quand la radio nationale, puisqu'elle est encore nationale, est en grève.
Et oui.
Ce qui
arrive. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs.
Oui, absolument.
Et la télévision, donc vous m'avez dit que vous la regardiez un peu.
Je vais vous dire, on regarde jamais, là-dessus, Nicole et moi, nous sommes parfaitement clairs. Nous ne regardons jamais la télévision pour passer le temps. On regarde vers, en sortant du repas, la télévision, nous mangeons dans la cuisine, et la télévision n'est pas dans la cuisine, nous ne mangeons jamais avec la télévision. Nous regardons le programme, s'il y a quelque chose d'intéressant, on va le regarder, s'il y a rien, ou s'il y a quelque chose qui ne nous intéresse pas, qu'on a déjà vu, on écoute de la musique.
Vous ne regardez pas de cassettes, de films ou de...
Des DVD, si, on a commencé à avoir quelques DVD. Moi, j'aime beaucoup en particulier l'opéra, on met des DVD, je trouve ça très agréable.
Mais vous n'avez pas, par exemple, la télévision Mezzo ou...
Si, je suis abonné à Mezzo. On regarde de temps en temps Mezzo. Actuellement, il y a eu un changement de programme qui ne me plaît guère, parce que jusqu'à 21h, il passe que des niaiseries,
Donc la peinture, la musique. Alors, la musique, vos compositeurs, chanteurs, musiciens préférés?
J'allais vous dire que, pour moi, la meilleure musique, c'est généralement la dernière que j'ai entendue. M'enthousiasme le fait.
Même la musique moderne.
Non. La musique, il y a des musiques...
Sonberg ou non?
Non, qui ne sont pas encore bien familières. Il faudrait sans doute que je les écoute beaucoup pour arriver à les admettre, mais quand on est dans son salon ou sa la vivre, je trouve que la musique moderne, c'est pas possible. C'est pas possible, mais en concert, je déteste pas. Il y a eu... c'est fini, les... La musique moderne là, à Orléans.
Il n'y en a plus.
Je crois que c'est terminé ça.
Ils ont fait fuir la clientèle.
Oui. Mais j'y étais à un ou deux concerts, pas beaucoup. Mm-hmm. Je n'avais pas trouvé ça inintéressant. Il faut être dans la salle. Il faut avoir son attention captée par l'orchestre et ne faire attention qu'à ça. Tandis que quand on est dans une pièce, on écoute de la musique, mais enfin de temps en temps on s'évade parce qu'il y a sa femme qui fait ceci, parce qu'on est en train de l'aider à faire de la tapisserie, et puis on est pris par son boulot, à un moment on n'écoute plus. Alors que si c'est une musique à quoi il faut prêter attention, ça devient désagréable.
Voilà, alors c'est une question un peu annexe. Que conseillez-vous de faire à Orléans, quelqu'un qui vient à cet endroit, qui arrive
Pour faire partie d'un club ou d'une association, indiscutablement. Mmh. C'est indiscutablement, ça c'est sûr.
Et vous qualifiez Orléans de... Comment la qualifiez-vous comme ville?
Moi je trouve que c'est une ville qui est très agréable. Mais je pense qu'en particulier, il n'y a pas... On dit que c'est une ville où les gens, où c'est froid, etc. Moi, je crois que toutes les capitales régionales sont du même ordre et qu'il y a des milieux donnés où les gens se retrouvent en fonction de leurs occupations, de leur niveau de revenu, ce qui joue énormément. Et que finalement, on peut faire son tour quelque part, mais qu'on est attendu nulle part.
Et vous avez vu une évolution, Léon, par rapport à 69
Par rapport à 63, ouais. c'est considérable. C'était une ville triste, morne. Et finalement, maintenant, il y a du monde plein les rues. Alors que je me souviens, la rue de Gourville, qui est en face de chez moi, il y avait de l'herbe qui poussait entre les pavés. Hein. C'est transformé. Enfin, je ne sais pas combien vous pouvez faire l'agglomération, mais maintenant, je crois qu'elle fait 275 ou 1000 habitants.
Voilà. Donc, maintenant, l'enseignement, que pensez-vous de l'enseignement aujourd'hui? Si tant est que vous avez une...
Enfin, là, il y a vraiment des choses à dire. Je pense que pour beaucoup, la vocation d'enseignant n'a pas existé et que c'est très dommage et que il y a beaucoup d'enseignants qui n'ont pas eu cette fibre là et qui ne se sont pas investis auprès de leurs élèves. Je pense que en particulier il y a eu un moment où on a celui qui avait son bac, il suffisait pas grand chose pour devenir instit, et finalement il y avait pas mal de jeunes qui n'arrivaient pas à poursuivre des études supérieures, qui se sont lancés là-dedans et qui s'y sont lancés sans véritable vocation. Et que finalement, ça a fait que le corps enseignant a été globalement moins motivé.
Oui, mais donc vous êtes pour les écoles normales anciennes formules, ça,
Les écoles normales d'instituteurs?
Oui, qui existaient à la fin de mon temps.
Les IUFM, enfin je ne sais pas, j'ai entendu l'autre jour une séquence sur France Culture, sur les IUFM, à propos du débat sur la loi Fillon. Il y a eu un gars qui, paraît-il, on leur apprenait, il fallait marcher à quatre pattes sous un autre, sous un gars qui faisait comme un pont, etc. Et un des élèves instituteurs a dit, écoutez, moi je suis désolé, je ne suis pas venu ici pour faire le singe, je refuse. Alors je ne sais pas, il a été fourré à la porte, ça finit dans les tribunaux cette histoire. Ça finit. Et donc les gars disaient que finalement, les IUFM c'était toujours la même chose, c'était il fallait imaginer, etc. Alors, enfin, c'est la grande discussion de cette loi Fillon, c'est qu'il faut quand même, avant de créer, il faut avoir des bases. Il ne faut pas demander aux enfants de créer des choses si on ne leur a pas appris comment on a créé avant. Ils ne vont pas reconstruire le monde ex nihilo. Bon, enfin, on pourrait en parler pendant des heures. Enfin, moi je pense que...
Et vous avez remarqué beaucoup de changements, par exemple, avec vos petits-enfants ou...
Je pense, enfin, pour parler, ça dépend énormément des parents. Et moi, je vois mon fils aîné, qui est ingénieur à EDF, sa femme ne travaille pas, elle est très engagée dans des œuvres de catéchèse. Ces jeunes, ils ont relativement peu de copains et, à mon avis, des copains de médiocre qualité, c'est-à-dire que sur le plan culturel, ils ne sont pas très, très doués. Et ces jeunes, ces deux garçons de 18 et 16 ans, ils passent leur temps sur l'informatique, à recopier des chanteurs, etc. Ils piratent. Bon, alors, moi, je ne vois pas l'intérêt du piratage. Mais, ils piratent, et puis ils échangent des bouts de musique et des trucs comme ça. Moi je vois pas bien l'intérêt, je trouve que c'est pas créatif. Ils lisent relativement peu et ils jouent. Alors ils jouent à des jeux informatiques où il y a un petit bonhomme qui grimpe des murailles, qui saute sur un tremplin, qui passe dans un tunnel, etc. Qui éventuellement tue un autre, et il y a du sang qui se répand sur l'écran, et après le gars passe sur le sang, et ses bottes sont tachées de sang, il fait des pas qui sont marqués avec le sang de l'individu qui a été tué. Mais ce qu'il y a, c'est que le type qui a été tué, souvent à la fin, il se relève. Ce qui est un peu intéressant, parce qu'on a vu, des crimes que des jeunes ont fait comme si c'était des crimes virtuels. Je pense que dans des esprits faibles ou troublés par une substance ou quelque influence, ces jeunes peuvent parfaitement diverger.
Voilà. Et à votre avis, l'orthographe, la correction de la langue sont-ils enseignés aussi bien ou moins bien qu'il y a 35
ans? Alors, quant à moi, je crois, maintenant c'est une opinion qui m'est toute personnelle, mais je crois que c'est vrai. On ne fait pas de faute d'orthographe, ou on en fait fort peu quand on lit beaucoup. C'est-à-dire que si vous lisez régulièrement, ne serait-ce que le journal, vous voyez les accords, vous voyez les mots difficiles écrits, etc., et puis vous les photographiez. La meilleure preuve est que quand vous ne savez pas comment est un mot, si ça s'écrit comme ceci ou comme cela, vous les écrivez l'un au-dessus de l'autre, vous regardez, ça passe, puis ça passe pas. Bon. Moi, je crois que c'est... Alors, la désaffection de la lecture est une chose qui est bien connue de tout un chacun.
Et est-ce que vous seriez favorable à une réforme de l'orthographe?
Non. Non.
Même pour des choses simples comme l'accord des participes
passés. Écoutez, moi, j'aimerais vivre avec cet orthographe-là.
Des mots composés.
Et ne pas m'ennuyer à devoir changer mon orthographe. Maintenant, pour
une tolérance.
Pardon?
Une tolérance.
Vous savez, c'est... Le fait de prendre de l'âge rend quand même les gens parfaitement conservateurs. Et je pense que c'est un phénomène qui est un phénomène physiologique, comme disent les médecins. Et donc, les choses qui changent, il faut s'y habituer. Et on s'habitue quand même beaucoup plus difficilement à 73 ans qu'on ne le fait à 12. Hein.
Mais, alors, je suppose, est-ce que vous avez déjà vu les messages sur SMS ou...
Oui. Voyez-vous, je consomme même de ça. Quand j'envoie des courriels, je mets à plus.
Donc vous aussi?
Oui, d'une certaine façon. Mais je ne dépasse pas ça. Hein. Je mets à plus, c'est tout ce que je...
Et cassette, comment écrivez-vous?
Cassette, il m'arrive de... Non, mais quand je prends des notes, je suis des conférences ou des amis du musée ou de l'UTL, et je prends des notes que je ne relis pas toujours, mais enfin, ça me maintient en éveil de prendre des notes. Et j'écris avec plein d'abréviations.
Oui, comme toutes les personnes qui prennent des notes.
Absolument.
Mais les jeunes, systématiquement, écrivent, K7, K7.
Oui, ça je le fais aussi, mais ça c'est quasiment passé dans les mœurs. Si je vous écrivais pour vous dire, écoutez, vous avez enregistré de moi une cassette... soyez gentil de la dupliquer, de me l'envoyer, par exemple, le premier exemple qui vient à la tête, je n'écrirai pas dans une lettre à vous adressée, cassette avec un K et un 7.
Bon. Mais sur le téléphone portable, oui.
Mais moi, je ne fais pas de SMS.
Ah, vous n'en faites pas.
Non, j'ai un terme, j'allais dire un thermomètre, j'ai un portable, enfin, je m'en sers pas beaucoup, enfin, c'est quand même très commode. quand il faut que j'aille voir ma vieille mère, si je suis d'un quart d'heure en retard,
Ouais, c'est affreux.
c'est toujours, si elle ne veut pas faire une crise cardiaque, donc je la rassure, je fais la place d'Italie, je suis ici, etc. Bon, voilà.
Alors, donc, rubrique éducation, j'ai fini. Rubrique langue culture. Selon vous, les gens parlent-ils de mieux en mieux? Ou non?
J'ai l'impression que les gens parlent de plus en plus mal et que le nombre de mots utilisés est assez réduit. Puis alors, en plus de ça, bon, ben vous avez des déviations de la langue qui, quant à moi, me choquent. J'entends tous mes petits-enfants dire c'est trop bien,
C'est trop.
qui est une aberration, ou c'est même c'est trop. Tout simplement. Enfin bon, il y a des déviations de la langue qui, je veux bien admettre qu'une langue vivante évolue, mais enfin qui, quant à moi, me choque. Mais enfin, je mets ça sur le plan du conservatisme. Et je ne me. Si pour trop, quand même, je me suis. Enfin, pas rebellé, mais enfin, j'ai dit, écoute, à ma petite fille, Alice, c'est trop. Ça ne veut pas dire grand-chose. Trop, c'est quand il y a trop de. Trop de beurre dans les épinards, trop de ceci, trop de cela. Mais c'est trop pour dire que c'est très bien ou très beau, ça colle pas. Bon. Mais je crois qu'en gros, le vocabulaire, le nombre de mots utilisés diminue. Sûrement, sûrement.
Et que pensez-vous du français qu'on entend à la télévision, à la radio?
Je sais pas, j'écoute pas mal France Culture. Il y a des gens qui parlent très bien le français et qui savent ce que chaque mot veut dire et qui, en gros, ont un vocabulaire assez riche. Hein. Ah
Et est-ce qu'il
oui.
vous arrive de regarder TF1 par exemple ou...
J'avoue, j'aime pas du tout TF1.
Et quand des émissions, je sais pas, de... Vous n'avez jamais, par curiosité, écouté certaines émissions, au moins un début ou...
Bah écoutez, quand il y a eu, comment ça s'appelait, il y a eu la ferme, puis avant il y a eu, je ne sais plus quoi,
Je sais
là,
pas. Star
les
Academy,
grandes,
non?
les émissions là où les gens vivaient ensemble là,
Et l'offre?
pendant 8 jours,
Et l'offre, je
je
sais
ne sais
pas
plus comment ça
trop.
s'appelait, bon, où on les prenait au réveil, au petit déjeuner, à ceci, à cela, la télé-réalité.
Voilà.
La
Et le
télé-réalité.
français parlé à ce moment-là.
Écoutez, avec mon épouse, comme on ne voulait pas avoir l'air trop décalé par rapport à nos
L'actualité.
contemporains, on a regardé 5 minutes et puis on a été tellement atterré qu'on a fermé. On passait sur une autre chaîne, je saurais vous le dire. on n'y est jamais retourné, alors je ne sais pas. Enfin.
Mais au niveau du français,
Non,
c'est...
ça nous a paru bétifiant et vraiment du.
Dans le contenu, mais dans la façon de le dire.
Très vraisemblablement. Enfin, je
Ça vous a
regarde pas un
pas...
souvenir. Non, mais c'était attristant, c'était déplorable.
Et est-ce qu'il y a des façons de parler qui vous agacent à la radio ou à la télé? Donc comme vous n'écoutez pas ces émissions-là, vous ne pouvez pas...
Alors, il y a de temps en temps des liaisons mal à propos, mais enfin, en gros, on n'entend pas
Les informations, est-ce que vous
les
remarquez des
informations.
choses
Non,
ou...
pas tellement. Non, je suis pas choqué. Mais j'écoute pas de. Alors, encore une fois, j'écoute pas des radios de jeunes, énergie, ou je sais pas quoi, etc. Jamais j'écoute ça. Alors, je risque pas de me trouver
Et les
en.
informations à la télévision, vous ne les écoutez pas non plus si.
Si j'écoute les informations à la télévision, sur Antenne 2 ou sur Arte, l'un ou l'autre, et je ne trouve pas qu'il y ait des fautes de français caractérisées.
Et vous estimez que le niveau de langage sur la 2 et sur Arte est le même à peu près.
À peu près, oui. Encore que. Enfin, Arte, c'est un peu particulier parce qu'une fois sur deux,
C'est
c'est une
marrant.
traduction en français de paroles qui sont dites en allemand. Non, non, ce n'est pas réponse,
Et que pensez-vous du français parlé par les jeunes?
Encore une fois, bon ben,
Voilà.
il est torturé, puis il y a surtout, encore une fois, je suis absolument pas raciste, mais enfin, il y a quand même un parler, disons, arabe, qui, enfin, une intonation arabe. J'ai passé 8 mois au Maroc, une intonation arabe qui est en train de passer chez un certain nombre de jeunes par contagion. Parce que le fait de parler, l'apprentissage du parler se fait par imitation, et on passe, on répète ce qu'on entend. Je sais que je suis originaire de Picardie, et j'ai une partie de ma famille qui est rurale. Ils ont encore un accent picard assez caractérisé, et ils habitent près d'Ailly-sur-Moire, entre Montdidier et Amiens. Bon, c'est vraiment la cambrousse. Et si j'y passe 4-5 jours, je reprends l'accent qui a été le mien quand j'étais gamin. Bon, alors c'est ce que vous voyez, un certain nombre de gosses qui ont cette espèce d'accent que je
Et
ne sais ni ne veux imiter.
est-ce qu'on trouve ce genre de parler à Orléans, dans quel quartier?
Alors, vous savez, Orléans, moi, je ne fréquente plus beaucoup Orléans. Enfin, moi, je vois parmi les jeunes lycéens que je peux côtoyer, des accents qui sont des accents qui sont des accents qui sont indiscutablement un peu d'origine arabe, une façon de traîner sur certaines syllabes qui n'a rien à voir avec le français de la Touraine.
Que pensez-vous de l'anglais comme langue qu'il faut connaître?
Ah ben ça, je pense qu'il faut absolument connaître l'anglais.
Et vous
Mais
avez
je ne
pris
la
des cours
connais pas.
d'anglais
Ah non, non,
depuis?
non, non, non,
Non,
je ne connais
c'est ce
pas
que vous
l'anglais.
disiez, ça vous manquait en
Ah
plein
oui,
vue
ça,
en
absolument, ça m'a
conférence.
toujours manqué. Enfin, finalement, j'ai eu une vie tellement active, et puis après ma retraite, c'est vraiment un énorme effort que d'apprendre une langue.
Et quel journal lisez-vous habituellement?
Le Monde.
Le Monde. Et quel article lisez-vous en premier? Qu'est-ce que vous lisez en
Bah, ce
premier?
que je lis dans le monde, je lis surtout le monde des livres et puis le programme de télévision. Puis autrement, je tourne les pages et je lis ce qui m'intéresse. Je suis un peu intéressé par la politique intérieure française et puis la politique européenne et éventuellement l'Afrique. Mais je me sers beaucoup. J'achète plus le monde tous les jours parce que j'ai le monde par
Internet.
l'informatique. Et que finalement, bon, ben, s'il y a un article, je vois les articles qu'il y a, je clique sur un bouton, puis j'ai l'article, je le lis. Et puis, si j'ai pas le temps de le lire, je l'imprime, et puis je le descends.
Et oui, vous les lisez directement sur l'écran, ça.
J'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal.
C'est plus.
J'aime mieux quand même le lire
Et
sur un
imprimé.
papier, hein. Mais enfin, je crois qu'il faut s'y mettre. Il n'y a aucune raison qu'on ne se mette pas à lire confortablement sur un écran. Mais ça, je sais, de la part d'informaticiens, que la plupart des gens qui ont impriment parce qu'ils aiment mieux lire du papier que de lire sur un écran. Hein.
Et est-ce que vous faites les mots croisés du mot?
Oui.
Oui.
C'est-à-dire que j'avais, mais là ils me l'ont sucré, j'avais la sélection hebdomadaire du Monde qui est réservée aux gens qui n'habitent pas en France. Et puis quand j'étais médecin travaillant, par faveur, il me l'avait envoyé. C'est un copain qui m'avait dit, mais moi je l'ai, etc. Bon, alors il m'avait envoyé. Et puis, tous les ans, je leur disais, remettez-moi ça. Puis cette année, ils m'ont sucré sans autre forme de procès. Je leur ai écrit une lettre et puis ils m'ont toujours pas répondu. Bon, alors je faisais les un mot croisé par semaine, celui de la sélection de l'avenir du monde.
Autrement, là, sur le monde, il y en a tous les jours.
Ah oui, mais je ne sais pas s'il est
Ah, sur
diffusé sur
ordinateur, je
Internet.
pense pas.
Je sais pas. Je sais pas.
Lisez-vous des magazines et lesquels?
Bon, alors des magazines. Attendez, je lis Diapason. Je lis L'Ami des Jardins. Et puis ça demain est à peu près tout. Alors si on peut pas.
Les
Et puis.
revues professionnelles, vous n'en lisez
Ah,
plus.
la médecine, c'est terminé.
C'est fini.
Je ne veux pas entendre parler de médecine. Je considère que la médecine, s'il n'y a pas le support d'un malade derrière, ça n'a vraiment pas d'intérêt. Enfin, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. C'est déconnecté de la réalité. Et non, ça, j'ai décidé de ne plus m'intéresser à ma spécialité. S'il y a un article dans Le Monde sur le lit, mais je n'ai plus du tout de revue médicale.
Et alors, quand avez-vous l'occasion d'écrire dans la journée?
D'écrire?
Oui. Est-ce qu'il vous arrive d'écrire dans la journée? Je suppose que oui.
Bah, ne serait-ce qu'en conférence, c'est certainement là où j'écris le plus. Et où je prends des notes. Bah, j'écris sur mon agenda.
Donc, vous avez un agenda
Oui.
pour noter les
Et
rendez-vous
je ne
pour...
peux pas m'en passer, ça, parce que
Ah, oui.
sinon j'oublie des choses. Parce que je prends de l'âge. Et à part ça, bah, écoutez, je fais toutes mes lettres, je les tape à
L'ordinateur. Donc vous
l'ordinateur.
écrivez.
Ah oui, mais je croyais que vous parliez, écoutez.
Écrire, écrire.
Ah oui, mais j'écris, bien sûr.
Voilà, tous les jours, je suppose,
Alors oui, pratiquement.
pratiquement.
Mais enfin, je communique beaucoup par courriel et je trouve que le traitement de texte est vraiment quelque chose d'absolument génial et que je me demande comment on a pu faire, comment des gens ont pu faire pour écrire des livres sans avoir l'informatique, c'est quand même
C'est
très.
surtout les dactylos qui étaient méritantes. Et alors vous remplissez votre feuille d'impôt sur Internet?
Bah écoutez, non.
Et c'est vous qui la remplissez, votre femme?
Non, non, c'est moi.
C'est vous?
Moi, elle est là.
Et le courrier, qui fait le courrier? C'est vous ou votre femme? Quand vous écrivez à des amis communs, par exemple?
Aussi bien elle que moi, ça
Les
dépend.
deux. Et à votre
Oui.
famille?
Bon, vous savez, on n'écrit pas bon, on n'écrit plus beaucoup. Ma femme aime beaucoup l'écriture. Et elle a horreur du téléphone. Elle a horreur du téléphone, mais enfin pour des raisons un peu précises. C'est que le téléphone, c'était l'horreur quand elle était enfant, qu'étant donné que son père était médecin généraliste, et que chaque fois qu'il sonnait, c'était
Une urgence.
pour que le. Oui, une urgence, ou que son père s'en aille quand il était en train de boulotter ou autre. Voilà.
Et pour contacter une personne habitant dans un rayon de 5 km autour de chez vous, comment faites-vous? Pas très loin de chez
Bah,
vous.
le téléphone.
Vous lui téléphonez, vous n'allez pas la voir.
Non.
Vous lui téléphonez,
Non, si on se voit, c'est pour boulotter ensemble, c'est pour se
Sortir.
rencontrer pour une sortie ou autre.
Et est-ce que vous téléphonez souvent?
Pas souvent.
Pas souvent.
Enfin, si je téléphone. Si, je passe 4-5 coups de téléphone dans la journée, quand même. Je sais pas si
Ah
c'est
oui, quand
souvent,
même.
pas souvent.
Quand
Bah
même.
oui, parce qu'il y a quand même, il y a quand même des amis, il y a quand même les deux associations dont je m'occupe. Au moment de la chasse, il y a les copains de chasse, etc. Enfin bon.
Ben, c'est un sport, la chasse. Vous m'avez dit
On
que...
peut appeler ça un sport, mais enfin, moi je ne considère pas ça comme un sport. Étant donné que je fais une chasse qui est une chasse à l'affût,
Ah
et
oui.
que bon, c'est pas
C'est le
moi
gros
qui
gibier,
rabats,
alors.
c'est du grand gibier. Sauf qu'il n'y a plus que ça d'intéressant.
Ben, il y en a beaucoup, dans le coin. Des
Ouais.
gros gibiers.
Oui, mais le petit gibier, c'est pas intéressant. C'est du gibier d'élevage. Autant aller casser des assiettes.
Et chez vous, qui cuisine?
Ah, c'est ma femme.
Et vous, jamais?
Jamais.
Jamais. Mais alors, j'avais quand même une question à vous poser, parce qu'elle vous a été posée par les Anglais. C'est la recette de l'omelette. Voir si vous avez évolué dans la préparation de l'omelette.
Peux te demander
Comment
ma
faites-vous
femme.
une omelette?
Moi, je n'en fais pas.
Vous ne savez pas.
Je ne sais pas. Je crois qu'il faut mettre des œufs, hein, le blanc et le jaune, et les battre. Et puis, c'est tout. Mettre du poivre et du sel. Oui. Et puis les mettre dans une poêle, après avoir mis un peu de matière grasse au fond,
Ben
de
voyez,
l'huile de préférence.
vous savez la faire. Et hors questionnaire, mais ça m'intéresse, et voir si vous pouvez me raconter le petit chaperon rouge.
Le petit chaperon rouge, oui, bah c'est le petit chaperon rouge. Sa maman lui donne une galette et un pot de beurre pour aller le porter à sa grand-mère qui habite de l'autre côté de la forêt. Et le petit chaperon rouge s'en va en dansant d'un pied sur l'autre avec son pot de beurre et sa galette. Et puis, sur le chemin, il rencontre le loup, et le loup lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais voir ma grand-mère pour lui porter un petit pot de beurre et de la galette de la part de ma maman. Et alors le loup lui dit, mais où est-ce qu'elle habite, ta grand-mère? Alors le petit chaperon rouge lui dit, c'est là, on suit ce chemin-là, et puis après il y a un grand chêne, on tourne à droite, et puis la maison est un petit peu plus loin. Alors ah bon, on dit le loup, et puis le loup s'en va très rapidement, il s'en va jusqu'à la maison de la grand-mère, et puis il rentre et il avale la grand-mère. Et il se met dans son lit, mais le petit chapeau qu'on mettait jadis
La
pour
charlotte.
dormir, et puis quand le petit chaperon rouge tape, le loup lui dit, tire la bobinette, et là, machin, serrant, je ne sais plus exactement quoi. Et donc, le petit chaperon rouge voit sa grand-mère et lui dit, grand-mère, que vous avez des grandes oreilles. Et alors la grand-mère loup lui dit, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Grand-mère, que vous avez un grand museau, un grand nez, c'est pour mieux te sentir, mon enfant. Grand-mère, que vous avez des grandes dents, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Et elle se saute sur le petit chaperon rouge et le dévore tout comme. Je ne sais pas si
Voilà.
c'est la bonne histoire ou la mauvaise histoire.
Voilà, donc j'ai fini. Je vais essayer d'arrêter là. Voilà, j'ai fini le. Alors maintenant, je vais répondre à votre question à votre tour si vous voulez avoir un.
C'est un truc électronique, ça? Il n'y a pas de.
Et je peux le charger directement sur l'ordinateur. En fait, c'est un petit ordinateur, mais j'arrive pas à le. Je suis pas compétente pour ça. Donc c'est enregistré. Il va falloir que j'arrête maintenant. Et que je l'enregistre. Le petit chaperon rouge, c'est pour voir comment passe la tradition orale. On avait fait cet exercice en DEA et on avait demandé aux étudiants de raconter le petit chaperon rouge. Et c'est amusant parce que il y a des phrases types qui restent. Tire la bobinette et
Je
celui
lis
à de
ça.
Cherara. Il y a le que vous avez de belles dents. Et il y a des passages qui sont plus ou moins interprétés. Il y en a qui mettent pas la même fin. Suivant.